Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateurs du site construiresaretraite.com.
Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement dans le neuf. Alors, traditionnellement, il faut chercher la bonne localisation, se déplacer, rencontrer différents conseillers, etc., etc. Alors, les candidats investisseurs rêvent d'une solution qui simplifie le parcours client en optimisant chaque étape de l'investissement, de la sélection du bien jusqu'à sa mise en location. Tout cela sans avoir besoin, bien sûr, de se déplacer.
Et c'est vrai, Gaëtan, que ce sera intéressant, d'autant plus qu'actuellement, l'immobilier est en crise et il est plutôt difficile d'y voir clair, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour nous parler de ces nouvelles approches, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Jus. Pierre-Emmanuel Jus, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à tous les deux, merci.
Avant toute chose, nous connaissons la pyramide de Maslow liée aux besoins fondamentaux. Le rapport avec votre site, c'est d'avoir une habitation, d'avoir un toit ?
Oui, c'est un peu l'idée. En fait, la pyramide de Maslow, c'est les besoins primaires, se loger, se nourrir, voilà. Et en fait, nous, on est parti du principe de la pyramide de l'investissement, finalement. Mm-hmm. Et donc, puis mon épargne de précaution, puis mon épargne moyen terme, puis à un moment donné, le troisième étage, l'investissement. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a choisi le nom. Et puis, on voulait pas le nom immobilier non plus dans le site pour des questions de référencement. C'est pour ça qu'on a pris Maslow.
Évidemment.
On dit tout, on est transparent.
Ouais. Alors, revenons-en donc du coup à Maslow. Maslow.imo. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de Maslow.imo et qu'est-ce qui vous a motivé finalement à créer ce site ?
C'est de répondre à des nouveaux besoins, tout simplement. C'est-à-dire que aujourd'hui, Maslow.imo, c'est une solution 100% digitale qui s'adresse aux candidats investisseurs qui souhaitent investir. Et on propose de sélectionner, de réserver, de financer, de gérer le bien directement sur Internet, mais aussi d'être accompagné. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter des chaussures, des voitures sur Internet, peut-être demain de l'immobilier. On a besoin de la vente accompagnée. Et l'idée, c'est celle-ci. On a une plateforme digitale, mais on s'adresse et on s'associe. On est le bras armé digital d'un groupe qui existe depuis 40 ans. Et donc, c'est une nouvelle façon de toucher des personnes qui sont sur Internet et qui se forgent leur opinion toute seule. Aujourd'hui, la source d'information, c'est Internet, c'est YouTube, c'est Google. Et les investisseurs qui vous écoutent, ils vont rechercher une source d'information, ils vont se forger une opinion et après, ils vont chercher le meilleur interlocuteur.
Comment se distingue Maslow des autres acteurs de l'immobilier ? Parce qu'effectivement, vous parliez du référencement, mais là, la clé, c'est quand même d'apparaître vraiment comme différent.
Oui, nous, la clé, c'est la promesse, c'est la data et l'expertise. Donc, l'idée, c'est de donner de la data aux candidats investisseurs pour qu'ils se forgent une opinion lui-même. Donc, nous, on est très clair sur les fondamentaux du bon investissement immobilier. Donc, on les donne, c'est forcément des clés qui sont importantes. Et puis, de l'expertise. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est... moi, je suis le bras digital d'un groupe Valority qui existe depuis 40 ans. On gère 20 000 logements. Donc, ça veut dire que chaque mois... on verse 20 000 loyers partout en France à des investisseurs. Donc, on a la prétention de connaître très bien nos marchés immobiliers. Par contre, il fallait apporter cette expérience et cette expertise au digital à ceux qui ne sont pas encore clients chez Valority et qui sont de l'autre côté de l'écran. Et c'est ça l'idée. Et ensuite, on est dans de la vente accompagnée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je me lève pas le matin en comptant le nombre d'appartements que j'ai vendus comme sur un site marchand. Et donc, il fallait de l'expertise. Et moi, mes conseillers qui sont derrière les écrans, qui accompagnent les clients en visio, ont plus de 10 années d'expérience, sont certifiés AMF. Savent de quoi ils parlent.
Alors, dans la solution digitale que vous proposez, là, le site, on a repéré le score Maslow qui permet à l'investisseur d'apporter un éclairage sur le bien. Alors, comment ça fonctionne, en fait ? Parce que c'est pas si simple de juger d'un bon investissement. Par exemple, on peut avoir un bon cash flow, mais quelque part, ça dépend de l'évolution du prix de l'immobilier, par exemple.
Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, le score Maslow, il a été construit sur les fondamentaux d'un bon investissement immobilier. Et donc, on a notre propre data et on aspire de la data. Donc, on aspire de la data chez Lock Service, on aspire de la data chez Bien Ici, on aspire de la data chez Priceable. Et on a créé un algorithme. L'algorithme, il va scorer chacun des biens qui sont présents sur le site, en neuf et en ancien, on y reviendra. Et donc, on va regarder c'est quoi un bon investissement immobilier. Donc, on va peut-être se mettre d'accord, on va investir sur un bien immobilier dans lequel il y a une tension locative certaine. Donc, tension locative, ce sont des critères. Ensuite, c'est l'emplacement. L'emplacement, ce sont les commerces, les transports, à combien de mètres je suis de la boulangerie, des transports, etc. Donc la géolocalisation de mon bien. Ensuite, il y a la profondeur de marché. La profondeur de marché, c'est l'historique des prix, le nombre de transactions dans la ville. Si j'achète un appartement et que je suis un investisseur, peut-être que je le revendrai. Si je vis dans une ville trop petite, pour prendre votre exemple, et qu'il y a 25 transactions par an lorsque je vais revendre mon bien, je veux bien qu'on parle de plus-value et de ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est des, on aspire cette data-là et on va jusqu'à scorer, améliorer la note, par exemple, d'un appartement qui a un extérieur qui n'en a pas, qui a un parking ou qui n'en a pas. Tout ça se résume, donc il y a une vingtaine de points. Au lieu de noter une note sur 20, on a fait une note sur 5 parce qu'on est sur Internet, un peu comme Trustpilot ou les restos. Et sur le site internet maslow.imo, ne sont présents que les appartements qui sont supérieurs à 3 sur 5.
Oui, effectivement, on voit toujours les notes qui sont plutôt au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne.
Oui, les autres, ils n'y sont pas, parce que moi, je vais pas mettre en avant je suis pas un site d'annonce. D'accord, je suis pas là pour référencer l'intégralité de l'offre immobilière aujourd'hui et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. D'une part aussi, comme je vends du neuf, je travaille avec des promoteurs, donc je vais pas dire à un promoteur tiens, je vais t'afficher en disant que ton programme dans l'algorithme, il est à 2 sur 5. Bon, il va me dire t'es sympa, est-ce que tu peux me mettre en 8e page. Donc je lui dis c'est simple, il apparaît pas. Donc en fait, ça c'est plus simple et donc l'internaute candidat investisseur est rassuré en tous les cas, et le point de rassurance sur le fait que sur maslow.imo ce qu'on lui propose respecte les bons critères d'un investissement immobilier. Et après, on le guide, on l'accompagne en fonction évidemment de son budget, de ses besoins, de son cahier des charges, de ses objectifs aussi.
Plus globalement, la digitalisation, comment est-ce qu'elle transforme ce secteur immobilier selon vous, avec toute l'expérience que vous avez ?
Oui, alors moi déjà, ça fait 19 ans que je fais ça.
Ah oui.
Donc j'ai commencé l'investissement immobilier en tant que professionnel en 2005, avant j'étais banquier. En fait, ce qui change, c'est la relation au client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais déjà un petit peu, mais... nous, par exemple, on fait un peu plus de 20% de nos ventes sur les expatriés. Donc forcément, si je suis... Alors, expatrié, je vais mettre nos Français qui habitent dans les dom-toms aussi, mais l'idée, c'est quels accès ils ont pour acheter en métropole ou en France. Ce n'est que Internet. Et finalement, mon expat aujourd'hui, c'est vous et moi qui se posons la question de où je souhaite faire un investissement immobilier, où est-ce que je peux investir. Généralement, les gens, les investisseurs, ils connaissent trois marchés. Ils connaissent le marché où ils habitent, le marché où habitent leurs parents, et le marché où ils ont fait leurs études. Ça, c'est les trois marchés qu'on connaît. Donc, on est capable d'avoir un avis éclairé sur des marchés que l'on connaît. Si mon budget ne me permet pas d'investir dans ces trois marchés, je ne sais pas, je suis parisien, mes parents habitent à Lyon et j'ai fait mes études à Lille. Si je ne peux pas accéder à ces trois marchés-là, ou que j'ai une non-croyance sur un des marchés, comment je fais pour être rassuré sur le fait d'investir dans l'aire urbaine de Strasbourg, l'aire urbaine de Montpellier, l'aire urbaine de Toulouse, comment je fais pour éviter les pièges, comment je fais moi derrière mon ordinateur. J'ai besoin de critères objectifs et c'est en ça que Maslow essaye d'y répondre. D'abord, avant que la personne déclenche la demande de rendez-vous, déclenche la demande d'accompagnement. Il a besoin d'être rassuré sur des critères objectifs.
Alors, on le voit, le secteur immobilier, il est aujourd'hui en crise. La situation des promoteurs, elle est pas facile. Selon vous, est-ce que c'est une bonne stratégie d'investir dans ce qu'on appelle des queues de programme, peut-être amplifiées d'ailleurs par la fin de la loi Pinel?
Oui. Alors, j'aime pas trop le mot queue de programme parce que c'est péjoratif, mais je comprends ce que c'est et j'ai pas de soucis.
C'est une réalité.
C'est une réalité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le marché immobilier des logements qui sont à la disposition des candidats investisseurs? Effectivement, il y a une crise sans précédent. Les promoteurs aujourd'hui, pour sortir une opération, ils ont besoin de plusieurs interlocuteurs. Ils ont besoin de vendre des logements sociaux. Ils ont besoin de la résidence principale et ils ont besoin de l'investisseur locatif. Et ces trois marchés se sont grippés en même temps. Hausse des taux, plus de rentabilité pour les institutionnels, le prêt à taux zéro, enfin la résidence principale, quand j'ai des taux qui passent de 1 à 4, mon budget diminue, et pour ce qui est de l'investisseur, ça a plombé la rentabilité et ça a mis un coup de frein important. Donc les trois marchés se sont arrêtés en même temps. Conséquence, les promoteurs ont dû déstocker, d'accord, parce qu'ils se retrouvent avec un stock pré-vendu à 50% et le reste, il faut continuer à vendre. Donc ils avaient deux choix, ils avaient la vente à la CDC, à la Caisse des dépôts, Action Logement, etc. Et quand c'est comme ça, ils doivent dégrafer les prix de 20%. Sauf qu'on fait pas 20% de marge dans la promotion, malgré ce que certains pensent, c'est pas la réalité. Donc on dégrafe les prix pour déstocker. Et puis on a des coûts de l'argent également qui étaient plus importants pour les promoteurs. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qui reste sur le marché? Il reste sur le marché des biens qui n'ont pas été vendus à la CDC, sur lesquels les promoteurs doivent s'en séparer. Donc ils vont pas vous dégrafer les prix de 20% parce qu'il y a des taux incompressibles. Le vendeur particulier qui divorce ou qui perd son job, il peut arbitrer son bien et dégrafer son prix de 30 ou 40%. C'est une décision de vente ou de vente contrainte. Là, le promoteur, il a moins de contraintes. Pour autant, vous avez aujourd'hui de réelles opportunités parce que vous avez des biens qui sont livrés plus tôt, parce qu'ils sont... Généralement, quand on achète sur plan, on est livré 2 ans après. Là, c'est déjà construit, donc c'est une vraie opportunité. Ça a tous les avantages du neuf. Une livraison d'un bien avec un DPE A ou B, sur lequel la demande locative est plus forte que dans l'ancien, et des prix sur lesquels ils sont obligés de faire des offres commerciales. Donc c'est vrai que les frais de notaire sont traditionnellement aujourd'hui offerts, il y a des baisses de prix, c'est-à-dire que vous achetez moins cher aujourd'hui que votre voisin qui a acheté il y a 2 ans sur plan. Mmh. Donc il y a des opportunités aujourd'hui. Les plus grosses opportunités, mais elles sont aussi plus dures à accéder, c'est qu'aujourd'hui il y a les grands logements qui restent sur le marché, qui sont moins la cible des investisseurs, parce que le T4 ou le T5, c'est pas celui qu'on achète le plus, mais c'est ceux-là qui sont les plus dégrafés en termes de prix. Voilà, donc peut-être parfois pour l'investisseur, la bonne question c'est peut-être d'acheter à plusieurs. Est-ce que je veux acheter avec mon petit frère par exemple ou mon associé pour me permettre d'acheter un appartement à 400 000 euros et de mettre 200 000 euros chacun? Ça, à mon avis, ce sont des opportunités qui peuvent être très intéressantes. Est-ce qu'il y a de réelles opportunités sur des T1 et T2 qui sont dégrafés de 20%? La réalité, c'est quand même plutôt non.
D'ailleurs, vous proposez uniquement des biens neufs? Et si oui, pour quelle raison?
Non, alors pas du tout, même si c'est évidemment la majeure partie de nos ventes. Nous aujourd'hui on a un positionnement qui est très clair, c'est qu'on souhaite, en tous les cas la demande qu'ont nos investisseurs aujourd'hui, c'est de la sécurité et de la lisibilité. Donc on essaye d'enlever toutes les contraintes. Donc aujourd'hui on a des contraintes réglementaires. L'encadrement des loyers.
Ah oui, ça on en a, oui. Voilà,
on en a beaucoup.
Hein, pas de problème.
On a la fameuse réglementation sur les DPE. Oui. Donc, du coup, j'ai une incertitude sur le fait que j'investis aujourd'hui en 2024. Est-ce que je vais pouvoir louer mon logement? Dans quelles conditions? Et un bon horizon de placement dans l'immobilier, c'est 10 ou 15 ans. Oui. Donc, nous, on essaye d'enlever l'incertitude sur les 10 ou 15 ans. Donc, on a pris un parti, un choix. C'est de dire qu'aujourd'hui, le DPE-D n'est pas touché par les... Voilà, le DPE-D aujourd'hui, dans 10 ans, je pourrais encore le louer, dans 12 ans, je pourrais encore le louer. Mmh. Donc, nous, on ne propose que de l'immobilier neuf et de l'ancien avec un DPE-D. D'accord ? Parce qu'on est aussi un site internet, il est difficile d'avoir la promesse de dire, je vais vous proposer un appartement à Strasbourg dans lequel je vais trouver les interlocuteurs pour gérer les travaux et pour tout faire. Et ça, c'est une promesse qui est difficile à avoir sur un site internet pour le faire partout en France. Donc nous, on souhaite proposer des investissements partout en France, dans des zones qui sont intéressantes pour les investisseurs. Mais notre positionnement, c'est qu'on enlève la surprise. Donc, ton tableau Excel, normalement, il doit fonctionner quand même plutôt correctement. Et donc, on a pris ce choix de ne pas aller sur la rénovation énergétique, les passoires énergétiques et les travaux sur Maslow.imo.
Ouais, trop d'incertitudes.
Difficile sur la promesse, difficile sur le prix également. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on achète un appartement dans l'ancien, même si on le rénove, il reste sur le marché de l'ancien. Ouais. D'accord ? Donc on prend n'importe quelle ville en France, on prend un immeuble et un appartement de 1985, on en prend un autre de 2005, il n'est pas au même prix. Ouais. Je déteste le prix au mètre carré dans les villes. D'accord, puisque l'appartement dans la même rue en 1985 et 2005 n'est pas au même prix. Et donc aujourd'hui, mon appartement de 1985, qui est une passoire énergétique, je vais le rénover, ça va me coûter cher. La rénovation énergétique coûte cher. On perd en plus de la surface mètre carré. Et un appartement, ça se revend au mètre carré, les amis. Hein, voilà. Même si c'est le plus beau. Et donc aujourd'hui, si j'achète et que je mets une quote-part de mon prix mètre carré importante dans les travaux, puis dans la déco, faut pas que mon bien soit décorrélé du marché non plus, notamment dans la revente. Et nous, on considère que c'est une promesse qui est trop difficile à tenir pour les investisseurs. Donc, on a fait un autre choix. Puis aujourd'hui, beaucoup de villes sur lesquelles le prix du neuf et le prix de l'ancien se rapprochent quand même. et qu'aujourd'hui, c'est quand même intéressant d'envisager les deux solutions.
Alors, le parcours client que vous digitalisez, en fait, il est très séduisant, mais la construction, malheureusement, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des retards, il y a des problèmes de qualité de finition, et souvent d'ailleurs sur les VFA. Alors, dans ce cas, qui endosse la responsabilité de la garantie des délais de livraison? Est-ce que c'est le constructeur ou est-ce que c'est Maslow?
Oui, alors ça sera toujours le constructeur, ça sera toujours le promoteur. Donc le promoteur aujourd'hui, c'est lui qui fournit les garanties décennales. Voilà. Donc comment nous, on peut protéger l'investisseur? Moi, je peux pas protéger l'investisseur sur le retard de livraison. Je peux vérifier au moment où je vais vendre le bien où on en est et est-ce que la promesse de la date de livraison dans le contrat d'adhésion, elle est cohérente par rapport au chantier. Ça, c'est le premier truc. Après, pour les retards de, par exemple, les finitions, ce que vous avez dit, les problèmes à livraison, c'est vrai que nous, on propose à l'investisseur de l'accompagner avec un mandat de gestion, qui est géré donc par Valority Gestion, qui gère 20 000 logements aujourd'hui en France, et nous, on s'occupe de la livraison, de la levée des réserves pour le compte du client. Il a le droit de prendre, de pas prendre, il fait ce qu'il veut. S'il investit à côté de chez lui, il peut faire sans. Mais on va accompagner le client au travers du mandat de gestion sur la réception. Donc on fait de la pré-livraison, pré-réception, réserve, levée des réserves, suivi des réserves. Et dans la gestion locative, on s'occupe de la gestion locative classique, de l'assurance loyer impayé que vous connaissez, mais on a également intégré une société de recouvrement, intégré une société également de courtage en assurance, pour que l'intégralité de la promesse Maslow soit intégrée et soit pas sous-traitée. Moi, je travaille pas en partenariat, je fais tout seul.
Okay. Alors, Maslow.imo n'est pas philanthrope. Hein. Comment vous rémunérez-vous pour les services que vous proposez?
Oui, donc nous, on facture pas d'honoraires de conseil. Donc, on est rémunéré par les promoteurs au travers de conventions de partenariat. Donc, sur le neuf, on est rémunéré entre 5 et 10% en fonction des partenaires et des promoteurs. La moyenne, c'est 7% pour être tout à fait transparent. Et pour
C'est-à-dire que pour l'investisseur, il n'a pas.
Exactement. Moi, s'il achète un appartement avec un promoteur, imaginons que je lui propose un programme qui est de chez Kaufmann Broad, par exemple, c'est Kaufmann qui va rémunérer la plateforme Maslow. D'accord. Ensuite, sur la transaction, donc nous, aujourd'hui, ce sont des biens qui sont issus notamment, principalement, de la revente du stock que nous avons en gestion locative. Donc, pareil, ils passent dans l'algorithme, je suis certain du DPE, c'est des biens qu'on gère depuis 12 ou 15 ans, je connais la valeur locative, je sais très bien comment ça se passe, si ça se loue, si ça se loue pas. Donc, c'est souvent des biens qui sont en exclusivité et dont on connaît la pertinence en termes d'investissement. Et là, on est sur des honoraires de transaction qui sont classiques et qui sont autour de 5,5% du prix. Et là, c'est à la charge du vendeur ou de l'acquéreur en fonction du mandat. Mais c'est tout à fait transparent. Pas d'honoraires de conseil, on prend pas d'honoraires sur d'éventuels travaux ou de choses comme ça. Les seuls honoraires que pourrait avoir le client, c'est s'il nous fait confiance sur la partie courtage en crédit, où là, il y a des honoraires de frais de courtage tout à fait classiques de courtage en crédit à hauteur de 1% du prêt.
Alors, avec toutes les données là que vous manipulez, est-ce que vous pouvez nous donner le top 3 des villes dans lesquelles il faut investir?
Alors, c'est à peu près la même réponse que pour le prix mètre carré tout à l'heure. Mais j'ai l'habitude, donc je vais quand même vous donner quelques tips. On va enlever les contraintes et on va rester sur des marchés hyper porteurs. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever l'incertitude pour les investisseurs. Donc, si aujourd'hui je dis à un investisseur, investis à Lyon, à Bordeaux et à Toulouse, il va me dire OK. Mais il va me dire c'est trop cher, et puis il va me dire encadrement des loyers, il va me dire tout ça. Donc je dis, on va quand même garder ces villes-là, parce que t'es sûr d'avoir un locataire. T'es sûr que sur un horizon de placement normal, la valorisation de ton bien, elle sera là quand même. D'accord ? Donc on va prendre ces villes-là, et on va regarder les villes qui sont juste à côté. Pas l'agglomération à 30 bornes, hein, juste à côté. Celles qui sont connectées avec le tram, le métro, les bus à fréquence rapide. Pas le bus vert, moi je suis normand, pas le bus vert où vous mettez 3 heures pour aller au collège, hein, pas celui-là, je parle bien du tram.
Pas le bucolique, le rapide.
Exactement. Donc si je prends Lyon, aujourd'hui vous regardez les communes qui sont autour, vous allez à Mézieux c'est 7 km de Lyon, vous êtes connecté directement au tram, c'est 1000 euros du mètre carré moins cher que Lyon, et c'est le même marché locatif, et vous n'avez pas l'encadrement des loyers. Donc vous achetez 1000 euros du mètre carré moins cher qu'à Lyon. Votre T2, il va pas se louer 150 euros de moins, il va plutôt se louer 35 euros de moins. Et là, vous êtes connecté. Donc, vous avez l'aspirateur économique de la ville de Lyon, les transports de la ville de Lyon, le prix mètre carré qui n'est pas Lyon. Et là, vous sécurisez votre investissement et on a enlevé les contraintes. Si je vais à Bordeaux, je fais la même chose, je vais à Pessac. Idem. Je suis à moins de 10 km, j'ai le tram et j'ai l'aspirateur, j'ai pas l'encadrement des loyers et ça fonctionne. Et je prends Blagnac à Toulouse, qui est en plus avec un aspirateur économique que tout le monde connaît, mais qui est là également est moins cher qu'un petit côté de nouvelle ville. Ça s'est quand même beaucoup construit là-bas, etc. Mais l'extension est quand même moins vrai aujourd'hui. Mais là, pareil, interconnexion rapide, marché et moteurs qui sont intéressants. Voilà.
Je ne pensais pas que nous aurions trois vraies villes. Merci beaucoup pour ces indications.
J'en ai plein d'autres, mais
c'est précieux et ça donne. Non, mais ce qui est très intéressant au travers des villes, c'est la réflexion que vous menez pour arriver à ces trois villes. Effectivement, on peut imaginer qu'il y en a plein d'autres en France, mais c'est effectivement ça ouvre un peu les chakras de nos auditeurs, j'imagine.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire aujourd'hui, faut pas oublier qu'un investissement immobilier, il sera réussi, pertinent, et les calculs de TRI fonctionneront qu'à la revente.
D'accord. Bien sûr.
Donc, en fait, c'est de se dire comment j'arrive à avoir ces critères d'investissement en imaginant la revente. C'est pour ça que la taille des villes, elle est importante. La taille de ville fait aussi le nombre de transactions. Vous avez entre 1 et 3 % du parc qui est en transaction tous les ans. Donc, si vous investissez dans une ville de 20 000 habitants, les amis, vous avez 200 transactions dans l'année. Donc, si vous avez 200 transactions dans l'année, ben, il faut que votre appart, ce soit le plus beau de l'année pour qu'il soit vendu. Donc, le fait d'être dans des agglomérations de 100 000 habitants, de travailler vraiment la connexion, moi, j'invite les investisseurs, en tous les cas, c'est comme ça qu'on essaie de les guider chez Maslow, c'est de se dire, on va aussi regarder. Moi, je suis passionné des projets urbains des villes. Là où vous mettez une troisième ligne de tram dans une ville, ou une deuxième ligne, ou une quatrième ligne, c'est de l'extension sur laquelle on construit des logements, des commerces, des écoles, et c'est de l'aménagement du territoire. Et à chaque fois qu'il y a de l'aménagement du territoire, il y a de la plus-value. C'est-à-dire que l'immobilier sur ces secteurs-là progresse. Et quand on est au bon moment, plutôt au début, voilà, mais parfois il faut se projeter, hein, c'est pas toujours si facile, ça peut être des choses qui sont très intéressantes.
Passionnant. Maintenant, il est quand même l'heure de passer à la question du mois, qui nous est posée par Christophe de Clermont-Ferrand. Je souhaiterais investir dans un studio pour étudiants en meublé, qui ne serait pas géré en résidence étudiante. Qu'en pensez-vous et quelle ville conseilleriez-vous pour les logements étudiants?
Alors, je pense que c'est une bonne idée. Un premier investissement sur un studio, c'est la bonne taille, c'est un budget de prix de départ, c'est intéressant. S'il veut pas investir dans une résidence gérée, bah, je vais lui conseiller d'abord d'investir à côté de chez lui. Clermont-Ferrand est une ville étudiante qui est intéressante, donc il peut y aller. Et si on passe pas par de la gestion déléguée bail commercial comme il l'évoque, ben il va falloir que lui gère le turnover, et le turnover dans les résidences étudiantes, c'est tous les 11 mois. Il va falloir qu'il gère tous les tracas, etc. Donc faut plutôt qu'il le fasse à côté de chez lui. Si jamais il le fait pas à côté de chez lui, il va falloir qu'il accepte la délégation de gestion. Donc il est pas obligé de passer en résidence étudiante, hein, il peut confier ça à un mandat de gestion meublé tout à fait classique. Et là, si je vais lui donner quelques tips, c'est de se dire, tiens, je vais aller voir les villes sur lesquelles j'ai une décorrélation importante sur le marché. Donc on a ce qu'on appelle les décohabitants. Décohabitants, c'est le nombre d'étudiants dans une ville qui ont besoin de se loger en dehors de chez leurs parents. La moyenne en France est 50-60%. Si vous prenez Bordeaux, par exemple, 90% des étudiants à Bordeaux sont des étudiants décohabitants. Donc ça veut dire que tu as la certitude... comment il s'appelle notre ami Clermont-Ferrand ?
Christophe,
t'as la certitude qu'à Bordeaux, sur les 30 prochaines années, tu loueras ton logement, il y a une profondeur de marché qui est dingue. Le deuxième tip que je vais lui donner, c'est, on a sorti des études comme ça chez Maslow, c'est de regarder les évolutions de Parcoursup. Les places de Parcoursup, ouvertes chaque année, donnent le nombre de nouveaux étudiants dans les villes. Donc dès que vous avez des ouvertures de campus, des choses comme ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc je lui dirais, tiens, intéresse-toi à une ville moins chère que Bordeaux. Je vais lui dire, va à Dijon. À Dijon, aujourd'hui, vous avez 3 campus qui vont tripler leur nombre d'étudiants dans les 3... avant 2027. Donc on est en 2024, t'achètes ton appart en 2025, tu auras déjà une tension sur le marché de l'étudiant qui sera important, et ça va s'accentuer encore. Donc ça aussi, ça protégera ton investissement. Voilà ce que je pourrais lui conseiller. Je lui dirais aussi de prendre un DPED pour éviter les travaux sur les petites surfaces, ça coûte cher, et de pas confondre. Voilà, il y a investir dans l'immobilier et s'investir dans l'immobilier. Et c'est pas tout à fait la même chose. Donc l'ancien, les travaux, les DPE, etc. à Dijon, quand j'habitais à Clermont-Ferrand, c'est s'investir dans l'immobilier. acheter un DPED sur un studio, c'est investir dans l'immobilier.
Excellent.
Eh bien, merci Pierre-Emmanuel Jus. Alors, nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes directeur délégué du site de Maslow.imo, le site qui digitalise l'achat de biens immobiliers neufs.
Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construiresaretraite.com, dans lequel vous pourrez découvrir plein d'informations.